Radio Champeau.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Champeau sur Radio Albigès. Pour cette nouvelle émission, nous recevons Marjorie, membre du bureau de l'association Géolion, l'association de géographie de l'Institut universitaire Champollion. Puis ensuite, nous vous proposerons notre agenda. Je laisse maintenant le micro à Alice pour l'interview.
Merci Guillaume. Donc aujourd'hui, on est avec Marjorie, donc, qui est chargée de com dans l'association Géolion. Alors déjà, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle et le but de cet asso sur le campus ?
Alors le but de cette association est très simple. Nous organisons des soirées, nous mettons en vente diverses choses qui nous permettront de financer un voyage de fin d'année, le traditionnel comme on appelle. Et là par exemple cette année nous allons partir à Budapest en Hongrie. Et c'est pour cela que nous allons organiser divers événements pour nous permettre de récolter des fonds.
Et c'est quoi comme événement à peu près ?
Alors des soirées étudiantes, nous en faisons beaucoup. Nous en avons eu plus de 12 cette année. Là, on les a terminés. Nous vendons des calendriers avec les photos de l'ancien voyage qui était à Varsovie. Nous vendons également des sweats et des t-shirts à l'effigie du logo de l'association. Et ensuite, nous pouvons faire divers partenariats et nous avons également des sponsors.
Vous avez quoi comme partenariat ?
Là, notre partenariat actuel, c'est avec McDo. Nous avons également avec les bars, comme l'Estabar et les Cordeliers, ainsi qu'un petit bar, le Gambrinus.
Ok. Et du coup, vous faites des soirées toute l'année, les jeudis soirs avec les étudiants ? C'est ouvert à tout le monde ou juste aux géographes ?
C'est ouvert à tout le monde. Il y a même une soirée où on avait eu une famille qui est venue, avec un grand-père, qui était très content. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. On en fait au moins 2 à 3 par mois.
Et par rapport au financement, c'est les bars et les... Et ces partenaires qui vous servent à financer une grande partie du voyage ou est-ce que c'est les entrées des étudiants du coup ?
Voilà, c'est les entrées des étudiants. Alors nos soirées, c'est 2 euros. Et du coup, il y a 50 centimes de vestiaire. Et voilà, c'est les entrées des étudiants ainsi que la vente des calendriers et la vente des sweats et des t-shirts.
Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter qui dirige entre guillemets cette association ? Qui sont un peu les membres du bureau ? Comment est constituée votre équipe ? Quoi ?
Oui, bien sûr. Alors nous avons Théo qui est le président de l'association. Nous avons Lucie, la vice-présidente. Nous avons également Axel, le secrétaire, Bérénice, la trésorière. Et nous sommes 3 chargés de communication, Léa, Alicia et moi-même.
Mais vous êtes majoritairement des secondes années, des premières années, des troisièmes années
Les bureaux sont composés que de secondes années.
D'accord.
Et c'est volontaire ça, le fait que ça soit que des L2 parce que l'an dernier c'était déjà des L2. Et est-ce que ça a toujours été des L2 ?
Ça a toujours été des L2, depuis le début. C'est toujours les L2. Là, par exemple, ce soir, nous avons une réunion. Nous allons élire le second bureau, le nouveau bureau de l'année prochaine. Et nous demandons aux L1, donc les futurs L2. Ça a toujours été comme ça.
Et est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que ça soit les L2 et pas les L1 ou les L3, par exemple ?
Moi, je trouve que ça serait une bonne idée de mélanger. Comme ça, par exemple, les L3, eux, ils ont déjà eu une expérience. Ils peuvent t'aider, même si nous, le bureau de l'année dernière est là, si on a des questions. Je trouve que c'est bien de mixer, ça varie. Au moins, on fait des connaissances. Par exemple, les L1, on ne les connaît pas beaucoup. On pourrait plus apprendre à les connaître. Et les L3 également.
Et justement, tous les géographes, ils sortent à vos soirées ?
Oula, cette année, pas beaucoup. C'est beaucoup plus des autres filières. Mais cette année, on ne comprend pas trop pourquoi, mais il n'y a pas beaucoup de géographes, non.
Il y a une déperdition dans la géographie.
Au niveau des L1, j'ai l'impression... Ça, je pense que ça dépend des générations et des licences, mais les L3, on ne les voit pas tous, mais les L1, il n'y a pratiquement personne. Et c'est toujours les mêmes, mais ils sont 31, on en voit 5, même pas 10.
Ah oui, d'accord, on est sur un certain ratio, là. Oui. Mais tu penses que du coup, l'an prochain, quand ces L1 seront en L2, est-ce qu'ils sortiront plus ou est-ce que ça sera un peu la pause de Géolion
Eh bien, je ne sais pas. Ça me fait un peu peur parce qu'en vrai, c'est dommage, vu que Géolion marche très bien depuis le début. Surtout que c'est la plus ancienne des associations de la fac, c'est même la première. Du coup, je trouverais ça un peu dommage, mais après, voilà, ça dépend des promotions. Il y a des années où ils nous ont dit qu'il y a des années, ça allait mieux que d'autres.
Et ce voyage, d'ailleurs, comment est-ce que vous partez? Où?
À Budapest.
À Budapest, c'est ça. Et comment est-ce que vous l'avez, comment est-ce que vous avez choisi cette destination? Et comment est-ce que ça s'organise, un voyage avec des étudiants en tant qu'association?
Alors déjà, on le choisit par vote. Souvent, on privilégie les pays de l'Est parce qu'ils sont moins chers et peu connus. Et du coup, au début de l'année, il y a une sortie jardin avec les profs et les professeurs pour que tout le monde se connaisse. Et c'est à ce moment-là qu'on propose aux étudiants des destinations, parce que l'association s'est réunie l'été, vu qu'on est élu là, fin avril, qu'on fait la passation en juin. Du coup, le bureau, tout l'été, il peut déjà décider quel lieu il aimerait. On leur propose en septembre. Et dès que le choix est fait, il faut qu'on regarde du coup tout ce qui est les billets d'avion, les auberges de jeunesse, comment aller de l'avion à l'auberge de jeunesse. Ensuite, les étudiants font ce qu'ils veulent la semaine, vu qu'on part presque 9-10 jours. Donc les étudiants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, quand on a trouvé tout ça, le financement aussi, c'est les étudiants ont une part. Ceux qui souhaitent venir avec nous doivent payer une partie du voyage. Comme ça, ça nous aide à payer en plus les avions et l'auberge de jeunesse, en plus des soirées.
Est-ce que vous n'avez pas des fois des problèmes de niveau de place? Plus de personnes qui veulent venir que de personnes qui peuvent venir?
Non. Souvent, on n'est jamais déjà plus de 30 et les personnes sont sûres de venir. On n'a jamais eu de problème de plus ou moins. Sur ça, ça s'est toujours bien passé.
Mais du coup, est-ce que si par exemple l'an prochain il y a 40 personnes qui veulent venir, est-ce que, enfin, il faudrait organiser plus de soirées toute l'année pour pouvoir garder un budget minime pour les étudiants?
Oui.
Ouais.
Il faudrait, oui, parce que honnêtement, nous, on veut pas que ça dépasse. Depuis le début, il faut pas que ça dépasse 300 euros par personne. Du coup, c'est pour ça que les pays de l'Est sont très bien. Et après, voilà, c'est vrai que plus ils sont, plus c'est cher. Du coup, pour pas pénaliser des gens, il faudrait faire beaucoup plus de soirées, trouver beaucoup plus de moyens financiers pour pouvoir payer tout ça.
Mais il faut que les étudiants suivent vos soirées, évidemment.
Exactement.
Pour revenir sur ce que tu fais, toi, c'est quoi être une chargée de com? Tu fais quoi exactement?
Alors, on s'occupe surtout des réseaux sociaux. On publie toutes les affiches des soirées avec des messages, etc. Ensuite, également, on fait des donnants-donnants avec les autres associations. On partage leurs soirées, ils partagent les nôtres. On fait pareil avec McDo pour les promos étudiants. On partage leurs promos étudiants. Et eux, ils partagent nos soirées. Donc, c'est du donnant-donnant. Ensuite, on fait tout ce qui est message sur le groupe Messenger de la licence pour dire, par exemple, les heures des réunions, les informations voyage, pensez à ceci, pensez à cela, les soirées réunions, parce que les étudiants font les caisses. Et plus ils font la caisse, plus ils participent à la vie associative, plus ils seront remboursés à la fin de l'année. Du coup, on fait passer ces messages, on publie les affiches dans l'université, on va également chercher les affiches au bar, on parle avec les bars. Mais après, on est un peu plus polyvalent dans cette association. On s'est également occupé d'organiser le voyage, d'aller contacter des sponsors, les bars pour les soirées. On est quand même polyvalent. Tout le monde aide tout le monde.
Et tu parlais de réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut retrouver l'asso Géolion sur les réseaux?
Facebook et Instagram. Facebook est beaucoup plus actif qu'Instagram. Donc, c'est surtout Facebook.
Sous le nom de Géolion, pareil?
Exactement. Mais on a eu un petit problème au début de l'année. On n'a pas réussi à faire une page. Du coup, en fait, c'est des demandes d'amis.
Ok, c'est quelqu'un en fait.
Oui, voilà, c'est quelqu'un. Et après, voilà, c'est là où on partage vraiment tout. Instagram, c'est vraiment plus des photos. Et là, pour l'instant, il n'y a que les gens de la licence qui sont dessus. Mais c'est pareil, c'est sous Géolion également.
Ok, super. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux potentiels géographes qui nous écoutent pour les motiver à participer peut-être l'an prochain aux soirées étudiantes, peut-être au week-end d'inté que vous organisez?
Oui, parce que oui, exactement. Il y a un week-end d'intégration que nous organisons également au tout début d'année sur un week-end et que nous finançons également pareil parce qu'on fait un peu des soirées avant. Du coup, ça nous permet de le financer et ça a moindre coût que le voyage. Et du coup, pour permettre de les motiver, ça serait que ça nous aiderait, nous, déjà, plus en polyvalent, plus à montrer que l'association et que la licence est vivante, vu qu'on est tout petit. On n'est même pas 80 les 3 années. Du coup, ça aidera à montrer qu'elle est quand même vivante. Puis eux, ça leur fait faire quand même presque une réduction de moitié de leur paiement du voyage. Du coup, c'est déjà pas rien, surtout que beaucoup d'entre eux le paient eux-mêmes, ne sont pas aidés par les parents. Du coup, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est vraiment pour eux les aider financièrement, un petit avantage financier, et pour montrer que voilà, que l'association reste vivante, que la licence également, malgré le tout petit effectif.
Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire pour motiver des potentiels prochains géographes à venir en géo? Parce que Par exemple, imaginons là un petit terminal qui se dit qu'est-ce que je vais faire de l'Ambrogin. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il se motive à venir en géo?
Mais déjà, il faut que déjà il ait un métier à nider avec le géo. La géographie, par exemple, on peut être urbaniste, travailler dans le tourisme, l'environnement, la culture, même la cartographie, le numérique. Et c'est surtout que c'est une petite promo. En tout cas, à Albi, on n'est même pas à 80, comme j'ai dit précédemment. Du coup, c'est très bien. Les profs sont très, très proches, beaucoup plus proches de nous. On a un voyage de fin d'année si l'association l'organise toujours. Ça, c'est très bien. On a plein de soirées. On a un week-end d'intégration qui est très comique. Et c'est beaucoup plus vivant. Alors, bien sûr, ça dépend des années, mais souvent, il y a beaucoup plus d'entraide entre les promos. Bon, là, cette année, je vous avoue, c'est pas fameux. Mais il y a des années où, voilà, il y a beaucoup plus de rapprochements. C'est comme la fac, sa taille humaine. Du coup, c'est vraiment très, très bien.
Ok. Et juste pour rester sur la géo, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer cette image de la géographie n'a pas d'avenir dans le monde professionnel?
Ça, c'est la grande phrase. Eh bien, déjà, j'avoue que quand tu n'es pas dans la licence, tu as cette phrase en tête. Mais en fait, quand tu es dans la licence, on fait de la géopolitique, on étudie l'Europe, on étudie l'environnement, la géomorphologie, la biologie, la climatologie, on apprend à faire des cartes, on apprend l'urbanisme. Du coup, c'est vraiment quelque chose de très bien. Enfin, je pense qu'il faudrait se renseigner, aller à tout ce qui est porte ouverte, regarder des émissions qui parlent, où il y a le mot géographie ou géopolitique, etc. Se renseigner dans des revues, si on aime bien tout ce qui est même environnement. Souvent, tous les thèmes s'accordent entre eux. Du coup, il faudrait vraiment s'intéresser à tout ce qui est licence, parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu difficile de se dire « Ah oui, la géo, on a plein de voies avec plein d'avenir très prometteur. » Il faut vraiment fouiller un peu partout.
Et justement, par rapport à ça, je glisse ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais sur le site de la fac de Champollion, dans la rubrique formation en géographie, il y a les L3 d'il y a 2 ans, je crois, qui avaient fait des petites vidéos pour présenter la licence de géographie. Donc si vous avez 2 minutes, allez regarder, c'est intéressant.
Et en fait, moi, ce que j'avais entendu parler, c'est que la géographie au lycée, au collège, ça n'a rien à voir, en fait, du coup, avec la géographie que vous faites en licence, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. On n'apprend pas les fleuves, on n'apprend pas les départements, on n'apprend pas les villes, on n'apprend pas les régions. C'est vraiment beaucoup plus poussé et c'est beaucoup plus intéressant.
Écoutez la voix de la raison, c'est bien la géographie. Je suis si peu objective.
Ouais, voilà, pour info, Alice est en licence 2 de géographie, c'est pour ça.
Et sinon, peut-être une dernière question avant de clôturer. Pour toi, quel est le rôle de la géographie aujourd'hui dans la compréhension du monde?
Ça nous permet d'étudier l'homme dans la société.
Ouah, c'est tellement beau.
C'est beau, ouais.
Splendide.
C'est une phrase qu'on nous a très souvent dite dans les cours. Vu qu'on étudie l'homme dans la nature, l'homme en ville, l'homme avec les conflits dans le monde, l'homme en politique, on étudie l'homme partout, du coup on apprend à appréhender l'homme, la nature, etc.
Donc pour toi, étudier la géographie, c'est mieux comprendre notre environnement et la façon dont, avec lequel on interagit.
Ça aide beaucoup.
Ben merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Mais c'est très intéressant. Ils sont très très gentils, ces deux jeunes hommes. Jeunes hommes et jeunes femmes.
Merci. Bon, ben, je te rends le micro, Guillaume, et encore merci d'être venu.
Avec plaisir, merci à vous.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
On écoute le groupe Dacha Mandala avec le titre Mojoy, un groupe que vous pourrez retrouver en concert dans le cadre du festival Atome Crousier. Ça va se passer les 10, 11 et 12 mai prochains sur le site de La Crousier à Tanus. Allez, on écoute ça et on se retrouve juste après pour la suite de votre magazine sur Radio Albigès.
Please. le groupe Dacha Mandala avec Mojoy, un groupe à retrouver en concert dans le cadre du festival Atom Crousier. Ça va se passer les 10, 11 et 12 mai prochains sur le site de La Crousier à Tanus. Toutes les informations sur le site de l'association debouletsyeux.com.
Radio Champeau,
la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Vous écoutez toujours Radio Champeau sur Radio Albigès et maintenant je laisse la parole à Noémie et Anaïs qui vont nous faire une chronique historique.
Je vais commencer du coup en parlant de mon sujet donc de VPHN, donc qui est l'unité d'enseignement consacrée à la valorisation du patrimoine et aux humanités numériques. Et donc mon sujet portait sur le personnage de D'Artagnan, que l'on croit tous bien connaître, et que finalement ce n'est pas vraiment le cas, donc je vais vous le présenter. Donc D'Artagnan se nomme Charles de Bas de Castelmort, ce n'est pas son véritable nom au tout début, et on estime qu'il est né dans une date entre 1611 et 1615, mais les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Donc il naît dans un village qui s'appelle Lupiac, en Gascogne. Il est gascon et il a une éducation de cadet, car il est le quatrième fils d'une fratrie de 7 enfants. Et il apprend donc le français, sa langue étant le gascon, à lire, écrire, compter, faire de l'équitation et le catéchisme. Il décide plus tard du coup de monter sur Paris à l'âge d'environ 15-16 ans, car c'est sa destinée en tant que cadet de Gascogne. Et c'est à ce moment-là qu'il va emprunter le nom de sa mère, qui est Montesquieu d'Artagnan. Ça s'explique par le fait que sa mère était beaucoup plus connue à la cour de Versailles, et du coup il prend ce nom de D'Artagnan, qui va rester évidemment célèbre. Sa vie se résume essentiellement à son rôle du coup de soldat, de mousquetaire du roi. Et on sait qu'il se marie en 1659 avec une femme appelée Anne-Charlotte Boyer de Chancely, avec qui il aura deux enfants. Et ces deux enfants vont porter le nom de Louis en l'honneur du roi Louis XIV, qui était très proche du coup de D'Artagnan. Donc il va d'abord être dans les gardes françaises et après accéder progressivement à ce qu'il voulait être, donc mousquetaire. Le corps des mousquetaires est créé en 1622 par Louis XIII. Au tout début, donc, c'était juste des soldats qui composaient la garde personnelle de Henri IV, du roi Henri IV, qui donc, lui, venait du sud-ouest de la France. Et quand il doit prendre le pouvoir, il faut qu'il s'appuie sur des soldats en qui il aura confiance. Et c'est pour ça qu'il fait appel à ces Gascons, en qui il a confiance. Et cette garde, du coup, personnelle va devenir les mousquetaires que Louis XIII va vraiment former et faire un premier corps dans l'année de 1622. Donc mousquetaires parce qu'ils sont armés de mousquets et ils doivent protéger le roi du coup à l'extérieur. Donc du coup, comment devient-on mousquetaire? Alors il faut tout d'abord être noble, donc c'est une des conditions. Et on observe dans les sources une condition qui était un peu moins connue et qui permettait aux Gascons, noble ou non, en fait, d'accéder aux mousquetaires, c'était la condition d'avoir survécu à 3 duels. Si il était révélé qu'ils avaient survécu à 3 duels, eh bien, on avait du coup confiance encore plus en leur capacité militaire et ça leur permettait d'intégrer le corps des mousquetaires. Bon, bien sûr, c'était un peu tu et on ne le disait pas vraiment, mais ça permettait du coup de rentrer dans ce corps de mousquetaires. Une autre question qui revient souvent quand on parle de ce thème, c'est du coup, ben, qu'est-ce qui devient les trois mousquetaires, en fait, est-ce qu'ils ont existé, Athos, Porthos, Aramis? Et la réponse est oui, ils ont tous existé, donc Athos, Porthos, Aramis, donc les noms sont un peu changés, genre Aramis était le comte Aramitz, etc. Ils sont un peu détournés, mais ils ont tous existé, et il est même possible que D'Artagnan les ait rencontrés à un moment, mais bon, ça, on en est évidemment moins sûr, il est possible qu'ils se soient rencontrés, mais après, est-ce qu'ils étaient amis, ils se sont connus, ça... c'est plutôt la légende qui va être écrite par Alexandre Dumas et qui sera retransmise dans les films, dans tout ce qu'on connaît au niveau des Trois Mousquetaires. Donc si les cadets de Gascogne étaient favorisés, c'est par leur fidélité, leur capacité militaire. Et du coup, c'était mal vu par la population, en fait, notamment parisienne, qui Il y a une historienne qui parle de mafia gasconne carrément, parce que en fait ils étaient vraiment à ces postes-là très 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 nombreux, et il y avait un réseau, en plus on observe un réseau d'entraide. Donc peut-être que vous connaissez aussi le personnage du comte de Tréville, et qui lui aussi a existé en fait. Et on observe qu'il avait des liens de parenté, notamment donc avec D'Artagnan, avec Porthos. Il y en avait qui étaient cousins de cousins. Et en fait, c'était vraiment un réseau d'entraide. Et ils arrivaient comme ça à ces grades de mousquetaires, du coup. Et c'était très mal vu de la population, qui a alors détourné le gascon, notamment dans la littérature ou les pièces de théâtre, en le caricaturant, en montrant son accent qui roule les airs, en disant qu'il était trop séducteur, vantard, allant beaucoup dans les tavernes, etc., etc. Et donc du coup, on voit que cette image, elle colle plus du tout à celle qui va être après Alexandre Dumas. Je pense qu'aujourd'hui, l'image qu'on a du mousquetaire, c'est plutôt dans les films, et même du coup Alexandre Dumas, quelqu'un de brave, de courageux. On a tous un peu envie de ressembler à D'Artagnan quand on regarde les films, et surtout les acteurs qui ont pris la place de D'Artagnan. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc voilà, D'Artagnan est connu pour son rôle de mousquetaire. Et aussi une autre date qui va le faire connaître, c'est l'arrestation du surintendant Nicolas Fouquet. C'est lui qui va y participer et l'arrêter, sur ordre de Louis XIV, qui va recommencer à ce moment-là son règne personnel, du coup en 1661. Donc il va s'acquitter de cette tâche. Qui va le faire connaître finalement, même si c'est pas trop resté dans l'histoire, vu que D'Artagnan, on pense toujours à Alexandre Dumas, mousquetaire, mais finalement ça aussi, ça a permis de lui donner une autre dimension. Donc il va continuer après évidemment la guerre et à être geôlier du coup pendant de longues années de Nicolas Fouquet. Et D'Artagnan, quand il va enfin retrouver la possibilité de faire guerre, est très content, parce que pour lui, être geôlier royal, c'était pas vraiment ce à quoi il aspirait. Il en avait un peu assez d'être dans le nord de la France, dans les Alpes, à surveiller même ce prisonnier royal. Et il revient du coup, après tout ça, à la cour, à la guerre. Et finalement, Louis XIV, qui doit faire confiance à quelqu'un pour être gouverneur de l'île, décrète que ce sera D'Artagnan. Donc malheureusement, il délaisse ses hommes et repart pour l'île. Et il devient gouverneur, mais ça va être de très courte durée, environ 6 mois. Parce que on retrouve aussi dans les sources le fait que D'Artagnan aurait eu un caractère assez désagréable, et on retrouve en fait toute une correspondance entre donc un des ingénieurs qui s'appelait Monsieur de Montgivreau à la forteresse de Lille et Louvois, donc le ministre Louvois de la Justice. Et en fait, chacun se plaint constamment l'un de l'autre. D'Artagnan va se plaindre que l'ingénieur a par exemple coupé son chemin où il passait tous les jours avec son cheval, et du coup se plaint, il dit il a fait exprès, c'est pas possible. L'ingénieur va y répondre en disant oui, monsieur D'Artagnan me manque de respect. Et en fait, constamment comme ça, on retrouve toute une... Ça semble un peu fou de penser à ça de D'Artagnan quand on retrouve un peu toutes ces sources-là. Et donc du coup, c'est en décembre 1672 qu'il quitte enfin l'île, on imagine avec, à mon avis, beaucoup de bonheur. Et du coup, il va retrouver ses hommes, ses mousquetaires. Alors il faut savoir qu'à cette période-là, du coup, on se retrouve en pleine guerre de Hollande, et notamment D'Artagnan va finir à Maastricht. Donc direction la guerre, où du coup il va faire plusieurs sièges, etc., etc., jusqu'à la date du coup fatidique du 24 juin 1673, où en pleine nuit, D'Artagnan va devoir, alors qu'il n'est pas du tout en poste, va devoir reprendre une position stratégique qui avait été prise dans la journée, mais qui pendant la nuit est en train d'échapper aux gardes françaises. Et du coup, il prend la tête de ses mousquetaires et part à l'assaut, même si au début, en plus, on retrouve qu'il n'était pas d'accord avec le duc de Monmouth, qui voulait lui franchir le passage à découvert. Et D'Artagnan, finalement, va prendre la tête de ses mousquetaires, va prendre la tête de l'assaut, bien que pas d'accord avec cette décision. Et c'est ainsi que D'Artagnan meurt, frappé d'une balle de mousquet du coup dans la gorge. Il faut savoir que du coup, on retrouve que 4 mousquetaires sont morts en essayant de relever et de ramener leur capitaine. Donc preuve de la foi qu'il y avait en D'Artagnan, que vraiment pour les mousquetaires, pour les soldats, c'était quand même un symbole, quelqu'un qui respectait énormément. Et ils vont essayer de l'écarter, mais malheureusement, il était trop tard. Et donc, du coup, voilà, c'est la fin de D'Artagnan. Et aujourd'hui, en fait, si on ne sait pas, du coup, sa date de naissance, mais son lieu, on connaît sa date de mort, mais on ne sait pas où il est enterré. Donc, voilà, il y a des mystères un peu partout dans la vie de D'Artagnan. Et donc c'est après, des années après, que Alexandre Dumas, du coup, va tomber sur les mémoires de Monsieur D'Artagnan, faites par un mousquetaire, en fait, qui était contemporain de D'Artagnan. Il va tomber sur cet ouvrage et il va trouver cet ouvrage passionnant, enfin, cette vie, les vies des mousquetaires, des Gascons, etc. Et ne va jamais rendre ce livre, d'ailleurs, qu'il avait emprunté à la bibliothèque de Marseille. Et du coup, il va créer du coup, cette histoire que tout le monde connaît, de D'Artagnan courageux, romantique, etc., avec Porthos, Aramis et Athos. Et donc, voilà, c'est ainsi qu'on voit que l'image de D'Artagnan a évolué au fil des siècles, entre sa vie, la façon dont les Gascons étaient traités par la population, vus par la population, et maintenant comment l'évolution a continué et comment on les voit aujourd'hui. Je pense que D'Artagnan représente quand même un peu le symbole du... Enfin, quand on pense au symbole français, ou etc., même dans le monde, les films des Trois Mousquetaires sont connus, D'Artagnan est connu, et il représente quelque part la France, et on retrouve... notamment dans son village du coup natal, donc qui est Lupiac, un musée qui lui est consacré, un festival l'été aussi dédié aux mousquetaires. Donc c'est, ça a permis aussi de mieux faire connaître cette Gascogne qui a profité de cette image un peu plutôt célèbre. Donc voilà pour moi sur D'Artagnan.
Merci beaucoup Anaïs, on en apprend vraiment beaucoup plus sur le vrai D'Artagnan du coup, et pas le personnage de film ou de fiction, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à autre chose, au moment où tu racontais ça, je me renseignais un petit peu, et puis ça, quand t'as dit Cadet de Gascogne, ça m'a fait aussi penser à une histoire quand même romancée qui a sûrement des origines historiques, c'est Cyrano de Bergerac.
Voilà, c'est ça, ouais. Aussi j'y pensais.
Et c'est marrant parce que du coup je me renseignais, alors Cyrano était écrit... 50 ans à peu près après Les Trois Mousquetaires. Okay. Je ne sais pas qui a été... Enfin, sûrement qu'il a été inspiré par Les Trois Mousquetaires, d'ailleurs. et du coup, j'imagine que ça a aussi contribué à cette Gascogne un peu fantasmée avec les cadets de Gascogne et tout ça. Et puis, la trie historique et du coup, qui perdure encore aujourd'hui.
Oui, c'est ça, ouais. Tous ces personnages ont été développés un peu, du coup, 50 ans qui séparent les deux œuvres. Et du coup, il y avait beaucoup aussi de... C'est là où on retrouve, par exemple, aussi Zorro va naître quelques années avant Les Trois Mousquetaires. En fait, du coup, c'est les personnages et les romans feuilletons de Cap et d'Épée qui vont beaucoup se développer à cette période-là, en fait, donc par feuilleton. Et les gens vont totalement tomber sous le charme de ces personnages qui montrent des fidélité, bravoure, courage. Et du coup, ça va vraiment rester. Et donc, du coup, pareil, le personnage de Cyrano de Bergerac qui va être très, très connu. Et ils vont tous être un peu sous la même bannière, finalement, de la Gascogne et de ce sud-ouest de la France, avec ce caractère qu'on a vu un peu parfois très colérique.
Et du coup, Fanfan la Tulipe, c'est pareil aussi, c'est le même. Est-ce que vous savez ou pas si c'est la même époque?
Je crois que
de Cap et d'Épée, ça me fait penser à ça.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un peu plus tardif, du coup, Fanfan la Tulipe.
Okay.
Mais c'est sûr que ça reprend les mêmes symboles et la même histoire parce que ça plaît tout simplement aux gens et que du coup, c'est retransmis. C'est pour ça aussi que, quand, à mon avis, on avait regardé la liste de films faits sur les Trois Mousquetaires ou tout ça, elle est hyper longue. Ça a toujours été repris. C'est assez fou.
Ouais, mais c'est. Bah, je pense que les romans les histoires de Cap et d'Épée, ça continue à faire rêver tout le monde, quoi. Puis si tu mets du romantisme, de l'action, de l'aventure, et puis c'est bon, quoi.
Ouais, ça fait un bon film.
Bah voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas.
De rien.
Et puis, alors je précise quand même pour nos auditeurs et nos auditrices, si vous entendez une drôle de musique en fond, c'est parce qu'il y a les balances du retour du jeudi au moment où on enregistre cette émission. Donc c'est peut-être pour ça que vous entendez ça. Malheureusement, vous ne pourrez pas venir assister à ce concert, mais voilà, c'est le retour du jeudi, c'était la fin de la saison et vous l'entendez peut-être en fond. Merci beaucoup à toi encore.
Mais de rien.
Et est-ce que tu as peut-être écrit des choses à ce propos-là qu'on peut voir sur Internet en passant par le site de l'université?
Oui, on a notamment fait du coup un blog qui est consacré à la valorisation du patrimoine et des humanités numériques où du coup les personnes peuvent se rendre et vous retrouverez tous les sujets qui ont été faits de l'année dernière et de cette année, donc faits par des premières années et deuxième année de licence d'histoire d'Albi Champollion.
Merci beaucoup.
Merci.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Alors, Alice, qu'est-ce qui se passe sur Albi en ce moment ?
Alors en ce moment, sur le campus de la fac, en plus c'est pas loin, il y a le vendredi 10 mai et le samedi 11, un colloque sur le Moyen-Âge et l'époque contemporaine avec comme thème la maison consulaire, espace, fonction et usager. Donc en fait c'est organisé par plusieurs... spécialistes d'histoire, donc visiblement des maîtres de conférences et professeurs, donc qui viennent pour parler, faire un colloque autour du sujet de la maison consulaire. Donc si vous voulez plus d'infos, allez sur le site de la fac de l'Université Champollion, dans l'agenda, et tout est écrit.
Et moi, je vais vous parler d'une visite proposée en ce moment par l'Office du Tourisme des diverses maisons closes de Albi, donc, qui se passe du jeudi 25 avril jusqu'au 22 août, donc soit de 17h à 18h. Cette visite vous plongera dans les aspects sombres et criminels de la cité épiscopale, larcin, meurtre, maison close, inquisition, etc. Ce sera un voyage insolite à travers les époques et les régimes pour connaître l'évolution des mœurs, du pénal et de la vie carcérale de la ville d'Albi. Si vous voulez avoir plus d'informations, surtout au niveau des horaires, vous pouvez toujours aller sur le site de l'Office du Tourisme où tous les horaires seront détaillés.
Ça a l'air vraiment superbe.
Merci et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
Salut.